Alors, il me semble avoir compris que, en gros, l'économie est circulaire, c'est-à-dire que on augmente, allons-y, d'une bonne dose là de le taux des cotisations sociales, hein, et ça va faire augmenter le PIB, faire augmenter les prix, et ça va boucler merveilleusement. C'est ça que vous avez dit. Mais alors, si on augmente tous les prix, bon, ça peut tourner, d'accord, mais dans un pays totalement autosuffisant, comment on va faire pour exporter quand on aura augmenté de 30% les prix, par exemple?
Ben, la récession européenne depuis 30 ans vient de ce que ces partenaires commerciaux, puisque nous commerçons pour 70% dans l'espace européen, ont effectivement, je dirais, de conserve. Renoncer à la hausse de la cotisation et de l'impôt et créer une forme de récession généralisée à l'Europe. Maintenant, je suis bien d'accord avec vous que cet ajout de la valeur produite par les retraités, les fonctionnaires, etc., au prix, a nécessairement des effets sur le commerce, cette fois-ci, avec des pays qui n'ont pas la même dynamique, hein, c'est-à-dire le 30% de notre commerce qui va à des pays qui ont très peu de sécurité sociale et très peu de services publics. Il me semble que la solution pour faire face à ce que vous dites, c'est à la fois d'augmenter la sécurité sociale et les services publics dans ces pays-là, à coup sûr, hein, bien sûr, hein, qu'ils haussent leurs prix. Ah bon, d'accord. Ah, ça, je ne savais pas. Bon, ok. Avant, d'accord, okay. Mais surtout, je crois, par exemple, si nous voulons éviter de dévoyer l'exaspération populaire devant l'insolence des propriétaires lucratifs en disant qu'on va les taxer, retrouver la dynamique de la cotisation sociale, et pas celle de l'impôt, hein, parce que pour des raisons que j'ai vraiment pas le temps d'exposer, puisqu'il faut rendre la salle, paraît-il. Retrouver la dynamique des cotisations sociales suppose qu'en matière de vieillesse, par exemple, où on est passé de 4% du salaire brut à 26% du salaire brut entre 45 et 95, donc on a multiplié par 6,5 le taux de cotisation en 50 ans, ça suppose qu'on soit entre 35 et 40%, j'ai pas fait le calcul pour qu'il y ait une droite, mais enfin, il faudrait qu'on soit entre 35 et 40% du salaire brut. Donc qu'on augmente d'au moins 10 points la cotisation, 10 points de salaire brut, hein, la cotisation vieillesse. Alors, ça va entraîner une hausse des prix, mais nous pouvons l'annuler en supprimant la part de la valeur, hein, qui ne va ni au salaire ni à l'investissement. Il y a une part de la valeur qui ne va ni au salaire ni à l'investissement. Sur les 2 000 milliards que nous produisons, il y en a 1 200 qui vont au salaire, hein, 550 sous sa forme de cotisation, 650 sous sa forme de salaire direct, à peu près. Et puis, nous avons 100 milliards de revenus du travailleur indépendant, puis on a 700 milliards de profits. Sur les 700 milliards de profits, il n'y en a que 400 qui sont investis. Donc nous avons 300 milliards qui sont de la valeur qui ne va ni au salaire ni à l'investissement. Nous pouvons réduire nos prix de 300 milliards en supprimant la propriété lucrative, puisqu'elle ne sert à rien. puisqu'elle ne va ni au salaire ni à l'investissement. Elle ne sert strictement à rien. Donc, ces 300 milliards, c'est 15% du PIB. Hein. Augmenter de 10 points la cotisation vieillesse, c'est 5% du PIB. Vous voyez qu'on pourrait augmenter de 30 points les cotisations sociales pour qu'on ait l'équivalent de ces 300 milliards qui sont les dividendes et les intérêts. Bon, les intérêts non investis, hein, j'entends. Bon, donc, on est dans un coût du capital qui est totalement exorbitant. Et sans augmenter les prix, nous pouvons parfaitement augmenter de 30 points les cotisations sociales. Et vous voyez que du coup, en éliminant le capital, nous allons même pouvoir investir davantage. Hein. Parce que cette cotisation, on va pouvoir l'affecter en partie à l'investissement, par exemple. Hein, faire une cotisation investissement qui fera que les salariés maîtriseront l'investissement. Et donc pourront être copropriétaires d'usage de leur entreprise. Vous voyez, tout va ensemble. Je crois qu'on ne peut pas raisonner uniquement autour de la cotisation sociale. Tout va ensemble. C'est-à-dire que un changement de la définition du travail, c'est à la fois la fin du marché du travail, c'est donc le salaire à vie des retraités, étendu à tous. C'est la fin de la propriété lucrative, c'est donc la généralisation de la propriété d'usage. C'est le fait que nous prétendions être les décideurs, donc les propriétaires. Parce que c'est tout à fait vrai que la propriété est la condition de la responsabilité. Donc il s'agit bien que ce soit nous qui soyons propriétaires de tous nos lieux de travail. Pas simplement des nationalisations, hein, parce que ça divise le salariat, ça, non, de tous nos lieux de travail. Mais vous voyez que ça va être long. Hein. C'est pas le nombre de salariés qui attendent que quelqu'un leur donne du travail, hein, qui ont intégré cette aliénation-là, est encore considérable. Alors, ça bouge. Hein. Vous avez des tas de trentenaires qui, parce qu'ils ont été refusés par le marché du travail, hein, au départ, ce n'était pas forcément volontaire au départ, mais se sont construits ensuite dans du bricolage du RSA, du chômage, etc. Mais se sont construits un refus du marché du travail. Il y a un refus explicite. C'est très intéressant, cela. Il y a beaucoup de groupes qui, aujourd'hui, s'organisent autour du refus du marché du travail. Donc on peut s'appuyer, les salariés qui revendiquent la reprise par les salariés de toute entreprise dont le patron met la clé sous la porte, c'est aussi des signes très intéressants, hein, de ce fait qu'on n'attend plus d'un repreneur le salut.
Oui, cela concerne les contrats collectifs des entreprises pour une complémentaire de santé. Comment vous analysez-vous cette nouvelle création de... Voilà, qui vient en concurrence avec la sécurité sociale, en fait.
Il faut vraiment que je revienne, parce que c'était tout, c'était justement la seconde partie, hein, cotisation et épargne. L'ANI de janvier, qui rend obligatoire les régimes complémentaires, c'est une très grande victoire du MEDEF. Hein, parce que... mais ça, c'est une victoire qui vient de loin. Hein, c'est depuis 85. Hein, mais ça, il faudrait que j'en fasse l'historique aussi. Dans une autre séance. En 85, vous avez le changement du code de la mutualité. Et puis en 89, une transcription dans la loi de ce changement du code avec la loi Evin et qui crée le marché des complémentaires. Hein. Et puis un changement sémantique très intéressant, hein, où l'assurance maladie devient AMO. Hein. On ajoute comme ça un mot obligatoire qui n'existait pas jusqu'avant pour laisser un espace à une autre assurance maladie qui n'avait jamais été appelée assurance maladie. AXA, c'était pas de l'assurance maladie. Et les mutuelles, c'était pas de l'assurance maladie, d'accord ? Qu'on va appeler assurance maladie complémentaire. Le projet patronal, c'est un projet qu'on va dire beveridgien, hein, qui vient de l'Europe du Nord. Le projet patronal, c'est un projet de faire financer un panier de soins par la CSG. C'est pour cela que lorsque Jospin supprime la moitié de la cotisation maladie, hein, en supprimant la cotisation salariée, hein, maintenant la cotisation maladie a été supprimée en 1997, hein, c'est une entreprise tout à fait énorme, hein, au bénéfice de la CSG. C'est la plus grosse révolution, hein, en matière d'assurance maladie qu'on ait connue. Ça, c'est Jospin. Là encore, un homme de droite habilement à gauche. Il faudrait faire vraiment la biographie de la sortie de l'ENA. Hein, parce que c'est là que ça se joue. Hein. Il faudrait vraiment qu'un bourdieusien nous fasse tous les dîners en ville de ces personnages entre la deuxième et la troisième année d'ENA, quand ils se demandent de quel côté ils vont tomber. Hein, d'accord. Bon, c'est un choix qui est purement stratégique. La CSG, donc, serait augmentée. D'ailleurs, vous avez en permanence une campagne, hein, disant, bon, la CSG, c'est pas la retraite. La retraite, ça relève pas de la CSG. C'est la maladie et la famille qui relèvent de la CSG. Hein. C'est Rocard, hein, qui a mis ça en place. Hein. Encore une fois, c'est toujours Rocard. Hein. C'est le réformateur en chef, Rocard. Hein. C'est lui, l'intellectuel. Chez les politiques, c'est lui l'intello. Hein. C'est lui qui a fait le boulot, hein, sur le plan intellectuel. C'est pour ça qu'il est encensé complètement, bien sûr. Hein. Ça doit être en régime public, hein, le premier pilier. Hein, l'Union européenne résonne toujours en pilier. Hein, c'est donc le premier pilier, un panier de soins financé par la CSG. Et puis, la couverture, si possible intégrale, ils ne sont pas contre une couverture intégrale, hein, des soins de santé, c'est par des régimes professionnels. Hein. Nous sommes chez Beveridge. Hein. Vous avez un universel fiscal. Et puis, vous avez le gros du truc qui est professionnel. Professionnel, ça veut dire en capitalisation. C'est ça que ça veut dire toujours. Hein. Parce que vous ne pouvez pas assumer en répartition des régimes professionnels. La mutualisation est trop courte. C'est toujours en capitalisation que ça se passe. Et donc, si vous voulez progressivement réduire l'assurance maladie au pasier de soins, il faut absolument que les régimes professionnels deviennent obligatoires. Tant qu'ils ne sont pas, l'entreprise n'est pas possible. Donc, et comme d'habitude, la CFDT a donné la caution salariale dont avait absolument besoin le MEDEF pour casser la gueule à la CGPME. C'est un débat interne au patronat, bien sûr. Entre le grand patronat et les PME, disons, hein. Le grand patronat qui voit plus loin, hein, dans le devenir de la classe dirigeante, avait besoin du soutien de la CFDT pour imposer aux PME des régimes obligatoires pour qu'alors puisse commencer, hein, vous avez en novembre 2011, hein, un texte tout à fait explicite de la commission santé du MEDEF, hein, pour qu'alors puisse commencer 2011, je me trompe, non, c'est bien ça, novembre 2011, puisse commencer une entreprise de couverture au premier franc d'un certain nombre de risques par des régimes professionnels, une entreprise de réduction du panier de soins, d'accord. C'est très avancé en santé. Hein, et l'acte majeur, ça a été 97, la CSG, Jospin, hein, encensé par la CFDT, par le MEDEF. Hein. Nous avons là, je ne parle pas des militants CFDT qui peuvent être des gens tout à fait remarquables. Hein. Nous avons une direction de la CFDT qui est un adversaire de classe, hein, si on raisonne en termes de classe, hein, qui est vraiment un adversaire redoutable parce que, ben aussi, c'est des gens de droite qui sont à gauche. Donc, c'est quand même. C'est des gens redoutables, c'est les plus redoutables, ces gens-là.